Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci.
Donc, comme la conscience que là, je me lance pour genre une heure. j'ai jamais ça, mais là, je suis comme, ah ouais, là, tu te lances pour une heure. Puis pas trop de notes. Qu'est-ce que j'ai sur... Qu'est-ce que j'ai? Bottes, cloche, eau. Bon, toutes ces choses, on en a parlé. je trouve autre chose. Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Je me disais, tant qu'à... Ouais, ça me semblait avoir du sens, là, en lien avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Peut-être de s'attarder un peu là, dans ce quatrième fondement. Est-ce qu'il va repartir son affaire? Premier fondement. Le corps. Deuxième fondement. Les quoi? Plaisir des plaisirs. Ah, ça rentre, hein? Troisième fondement, les états mentaux. Quatrième fondement, quelques listes, quelques différentes lunettes, façon d'explorer son expérience. Entre autres, le passage des cinq obstacles vers les sept facteurs de l'éveil. Le passage des états affligeants vers cette recherche très, très belle, très de pleine conscience, comment s'accompagner d'un état à un autre, ou même on pourrait dire comment accompagner une autre personne d'un état à un autre. Et dans ces listes-là, donc il y en a une qui est les quatre, notre vérité. Why not? Why not? Why not? C'est tellement central, c'est tellement essentiel aux enseignements bouddhistes. Je pense que ça vaut la peine qu'on aille un peu voir ça, là, un peu voir ça. Alors, mise en contexte, qui me semble très importante. Donc, il y a quelqu'un, il y a 2600 ans, qui était très touché à un moment donné. Donc, c'était une vie de privilège. Je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire un peu, mais c'est une vie de privilège. Des beaux jardins, de la musique. Une vie très protégée, là. Une vie de... Puis à un moment donné, il y a la curiosité, puis... ce prince, ce jeune prince, va au-delà des murs du domaine des plaisirs, le mur du domaine des plaisirs, là, où il est très protégé, des gens qui le servent, nourrissent, etc. Et il fait quelques rencontres. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les grandes rencontres qu'il fait, là, on appelle ça parfois, là, on donne l'expression qu'on utilise, c'est les messagers divins ou quelque chose comme ça. C'est des rencontres, en fait. Et c'est des rencontres choquantes. Donc, c'est quelqu'un qui se croit peut-être éternellement jeune, éternellement en santé. Oui, quelque chose comme ça, là. Et qui, tout à coup, en sortant de son petit royaume, de son domaine, rencontre quelqu'un qui est malade. Il n'a tellement pas de référence qu'il ne reconnaît pas ce qui se passe. Alors on peut s'imaginer là, qu'il rencontre quelqu'un qui est affalé sur le bord de la route, peut-être qui est en train de vomir. Et là, il est choqué. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je vois juste des gens danser, des gens cueillir des fleurs, faire des bouquets. rigoler, jouer, de la musique, toutes sortes d'affaires. Là, je vois pas ça, c'est quoi, je comprends pas ces spasmes, la couleur de la peau, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Et avec un ami, son ami lui dit, ben là. C'est une personne malade. Ça va tout nous arriver. Et il est bouleversé par ça. On peut y penser comme si c'était la première fois, ou peut-être la fois la plus choquante pour nous, là où tout à coup on s'approche avec intimité de la maladie, là, puis tout, ça en est bouleversant. Là. Alors lui, c'est comme ça, il est bouleversé. Puis il continue un peu son exploration. Il voit une personne âgée, très très vieille, courbée, beaucoup de rides, comme ça, amaigri. Et il n'a jamais vu ça, lui. Il était un peu dans la jeunesse, là. Puis peut-être c'était passé, mais il l'avait un peu occulté, ça ne l'intéressait pas. Il n'avait pas remarqué ça, tu sais. Mais là, tout à coup, il est frappé par ça, puis il est aussi confus, choqué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, son ami, ben là, c'est une personne âgée. Ça va nous arriver à nous autres aussi. C'est complètement aberrant. Pour lui, c'est étonnant. C'est... Puis encore, peut-être dans les heures qui viennent ou les jours qui viennent, là, il rencontre quelque chose aussi qu'il n'a jamais vu. Puis c'est d'ailleurs assez rare qu'on voit, je pense, plusieurs d'entre nous en tout cas. Il voit un cadavre, une personne qui est morte. Et là, il reconnaît vraiment pas ça non plus. Il regarde, il y a quelque chose qui m'échappe, là. Il y a quelque chose de très étrange. Puis son ami lui dit, ben, écoute, la personne est morte, là. Puis il est sidéré par ça, lui. Il n'avait pas considéré ça encore, là, ces affaires-là. Et là, sa vie lui paraît un peu futile tout à coup. Il était comme, qu'est-ce que je suis là à accumuler du fun, tu sais? Alors qu'il y a ces choses-là qui s'en viennent. C'est tellement étrange. J'arrive pas à comprendre comment on se retrouve là si on veut pas ça, si on. Puis ça a lieu. Attends, je comprends pas. C'est la quête, hein? C'est le début de la quête. Comme, attends, il y a quelque chose, il faut que j'aille voir. Et donc, il part dans une quête spirituelle qui va durer plusieurs années. Entre autres, dans cette quête-là, il y a un moment, donc là, je saute parce que ça pourrait... Non, ça en va dans la mini-série, là. Je sais que votre temps est limité, vous êtes des gens très occupés. Marche à six marches. Et c'est ça, il y a un moment, en tout cas le dernier moment de sa pratique avant l'éveil, c'est quelques années là, de recherche en silence, tout seul. Donc quelques années, là, vous voyez ce qu'on fait ici un peu, puis là lui, c'est quelques années dans la forêt. Les saisons, la météo, les dangers, les animaux. Et donc, après plusieurs années, il découvre quelque chose. Il résout l'affaire un peu pour lui-même. Là. Il comprend la situation. Là. Il comprend les choses. Puis il sort de sa retraite. Et donc là, on a quelqu'un qui vient d'aller faire quelque chose d'extraordinaire. Là, qui a investi énormément de temps, là, qui a tout laissé, puis qui est allé dans un laboratoire faire une recherche très pointue, qui a ramassé toutes les forces de son esprit sur plusieurs années pour pouvoir s'approcher très près des phénomènes. Et là, il sort donc de sa retraite. Et c'est la première chose qu'il partage, c'est ça, c'est les quatre nobles vérités. Alors moi, ça m'intéresse, tu me dis, tu sais, une des personnes les plus sages que j'ai jamais vécu, peut-être la plus sage, là, on va pas commencer à débattre de ça, là, ça va peut-être compliqué. Ça vaut pas la peine, mais disons, là, un des êtres les plus sages arrive de faire une découverte profonde qui va résonner plusieurs milliers d'années plus tard, tu sais. Donc là, cette personne-là, puis elle a quelque chose qu'elle veut partager. Donc moi, ça me tente d'entendre ça. Là. Je veux savoir c'est quoi les premières paroles de cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle va dire? T'sais. Ces premières paroles sont, ben moi, je trouve, d'une compassion incroyable. Ben, on pourrait dire là, tout le reste, c'est de la compassion, là, parce qu'il va y avoir 45 ans d'enseignement après qui sont seulement ça. C'est sa réponse compatissante à la situation. C'est, ben moi, je vais employer tout mon temps à aider les gens à cheminer là-dedans. Mais en tout cas, ces premières paroles, c'est, entre autres, la première noble vérité. Il dit, si je le remets un peu dans mes mots, il dit, c'est pas facile d'être un être humain. Je sors du bois, là, plusieurs années, là. Puis si j'ai quelque chose à partager, ce serait ça. J'aurais le goût de partager ça. C'est pas facile d'être un être humain. On est souvent séparés de ce qu'on veut. On est souvent, régulièrement, souvent, mettez le mot que vous voulez, en contact avec ce qu'on veut pas. C'est pas facile d'être un être humain. Il y a la maladie, la vieillesse, la mort, pour soi, pour ceux autour de nous. C'est ça, la confrontation avec le non-désiré. C'est pas facile. C'est sa première noble vérité, son premier énoncé, son premier partage. Puis il continue. Et ça devient très intéressant. Donc, pour revenir un peu sur cette première noble vérité, souvent on va dire que c'est la vérité de dukkha. Dukkha, c'est le mot en pali. Et dukkha, ben, il y a plusieurs traductions, là, j'en ai présenté quelques-unes. Une traduction assez classique, mais qui est quand même limitée, puis c'est la souffrance, la vérité de la souffrance. C'est pas exactement, peut-être, c'est pas juste. Une traduction avec une façon d'y penser que moi j'ai eu pendant longtemps, c'était... Ben, c'est ça, je l'ai dit plutôt, entre autres, bancale, la nature bancale des choses. Joseph, il y a deux semaines, mon prof disait que lui, ce qu'il avait beaucoup happé un jour, c'était d'entendre quelqu'un traduire ça par l'inévitabilité du non-voulu. Que c'est la nature de la réalité qui va y avoir la rencontre avec la perte de quelque chose qui nous est cher, la mémoire, l'autre... le contrôle, ça va faire partie de l'expérience. D'autres traductions, c'est Ajahn Chah qui dit « les choses sont incertaines ». C'est incertain. Dukkha, c'est le fait que les choses sont pas certaines. C'est pas certain qu'elles vont avoir lieu. C'est pas certain que les choses vont rester. Ou instables, non fiables. Donc, je parlais un peu de ça déjà. Pour moi, une version de ce mot dukkha, de cette vérité, qui semble comme toucher au cœur de l'affaire, c'est l'incapacité qu'ont les phénomènes de satisfaire durablement, ou entièrement, ou absolument. C'est pas dans leur nature, étant éphémère, passager, conditionnel, donc instable. Que quelque chose ait lieu, ça nécessite plusieurs conditions. Peut-être certaines sur lesquelles on va avoir du contrôle, puis plusieurs sur lesquelles on n'aura pas de contrôle. Hein. Et donc, ça rend les choses très instables. On ne sait pas si ça va avoir lieu, là, parce que, oups, ça peut changer. Une chose arrive, puis tout à coup, oups, plus d'électricité, moins 14. Malheureusement, la retraite est finie. Yeah! Libéré, délivré. et donc l'incapacité qu'ont les choses de satisfaire. Donc ça, c'est la première noble vérité. Ça a l'air bien déprimant, peut-être. Ou, en tout cas, moi, quand, ben, en fait, je dirais pas ça. Pour moi, personnellement, quand j'ai entendu cet enseignement-là la première fois, ça m'a soulagé. C'est un grand soulagement que j'ai ressenti. C'est que, ah, c'est pas de ma faute. J'étais confus, je savais pas si c'était tout l'univers qu'il y en avait contre moi, ou les autres, qui fassent que ça tourne mal des fois, ou que... Ah, c'est pas si tu me dis... Tu sais, moi, je cherche la faute, t'es où, là? C'est à qui la faute, tu sais? Puis j'ai l'impression que c'est moi, tu sais. Puis là, tu me dis, non, c'est la nature de la réalité. Les choses se brisent, les choses... Ce qui apparaît se désagrège, disparaît. Ah, donc c'est pas exactement ta faute, Pascal. C'est, ça arrive, les choses arrivent comme ça. Ils vont changer, ils vont pas rester. Ou peut-être quelque chose de désirable, tu l'atteindras pas, tu vas penser que c'est de ta faute, mais ben non, parce que c'est pas, ça marche pas juste de même. Si tu le veux, tu le peux. The secret, je sais pas si c'est une sorte de pensée magique, là, tu sais. Que, ah, si tu veux un yacht, si tu l'as pas, ça veut dire que t'es pas aligné, c'est toi, ça parle de toi. C'est toi le problème. Sinon, tu l'aurais, ton yacht. Puisqu'évidemment, c'est ce que tu veux. Un yacht. C'est sûr. Qui veut pas un yacht? Donc, ouais, il y a la vérité de dukkha. Puis là, après ça, c'est ça. Là, le Bouddha continue. Là, ça devient très intéressant. La deuxième noble vérité. On est souvent séparés de ce qu'on veut. On est souvent en contact de ce qui n'est pas désiré. Il y a la maladie, la vieillesse, la mort. Les choses sont un peu bancales, imparfaites, dans ce sens-là, défectueuses. Dukkha, à l'époque du Bouddha, on l'utilisait aussi pour parler, par exemple, de la roue d'une charrette qui n'était pas ronde, ou qui était mal ajustée, puis là, tu t'en vas dans ta charrette, puis il dit, voyons, Chris, la charrette est Dukkha. C'est un peu bancal. Avez-vous cette impression-là pour la vie? C'est comme ça souvent. Hein? Tu dis, ah mon Dieu, c'est un super job. Ça, mais il y a cet aspect-là. J'ai gagné un peu plus. Ou si j'avais une couple d'heures de moins. C'est souvent comme ça, hein, légèrement. Peut-être c'est parfait, mais ça va-tu durer? Tu sais, il y a une incertitude. Tu sais. Ça va-tu rester comme ça? Et donc, ben, il y a cette vérité. C'est toujours un peu le même style. Hein? Il répète, mais il passe pas au deuxième affaire. Deuxième affaire. Je commence à reconnaître un pattern. Puis donc, la deuxième vérité, où ça devient intéressant, c'est qu'il dit, mais le problème n'est pas là. C'est pas ça le véritable problème. La cause véritable de la souffrance, c'est pas exactement que la réalité soit défectueuse et bancale. C'est pas ça exactement le problème. Le problème, c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit, qu'on appelle peut-être en français la saisie, ou la prise, l'esprit qui s'accroche à l'idée que ça devrait être autrement, qui résiste, qui en fait un cas, qui ronge l'os, qui se braque. C'est la saisie, le problème. Donc, c'est sa deuxième noble vérité. Le problème, c'est une autre façon dont on peut en parler, c'est la soif. La soif d'autre chose. La soif de contrôle quand il n'y a pas. La soif de posséder quand on ne possède pas. La soif d'atteindre quand ce n'est pas là. Cette soif-là de... Je veux-tu avoir la concentration? C'est pas le fait qu'il y ait la concentration ou pas. C'est le fait que je veux autre chose. C'est très intéressant, non? Qu'il propose ça. C'est comme si... Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est... Ah! Le problème n'est pas à l'extérieur. Le truc à regarder, il est à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, là. Puis d'ailleurs, tout de suite, il amène la troisième noble vérité. Puis il dit, c'est possible qu'il y ait la fin de la saisie. De la prise, de l'esprit qui s'accroche. C'est possible, ça existe. La fin de ça est possible. On n'est pas pris avec l'esprit qui s'accroche aux choses. C'est possible de se défaire de ça. Il y a la fin possible de ça. Parfois, on parle du Bouddha un peu comme le grand médecin, parce qu'il utilise un peu une formule avec les quatre nobles vérités, une formule presque médicale, peut-être de l'époque, où on dit voici les symptômes, la souffrance, le stress, voici la cause, voici le, comment on appelle ça, c'est le prognostic. Il peut y avoir guérison. Puis après ça, il y a la prescription, le chemin. Alors c'est ça un peu les quatre nobles vérités. Il dit, voici ce qui se passe. C'est pas facile d'être un être humain, donc je vois, je regarde, je vois les symptômes, là, c'est pas facile. Hein? J'ai remarqué ça, là. Ça n'a pas l'air facile. OK, donc c'est ça. Tu arrives chez le médecin, tu dis, OK, ouais, je vois, ça se passe de quoi, là, ça n'a pas l'air facile. OK. Bon, la cause de ça, puis ce qui est beau, c'est qu'il va à la source de la cause. C'est ça qui fait que c'est quelqu'un de très spécial, peut-être dont on parle encore aujourd'hui, parce qu'il va pas dire, le problème, c'est le voisin, le problème, c'est l'employeur, le problème, c'est l'institution, le problème, il va aller plus loin encore. C'est quoi la source du problème? Parce qu'on pourrait dire, tu sais, c'est quoi le problème dans la vie si tu montes ça à un piéton? Ah, le gouvernement! C'est quoi le problème dans la vie? Je sais pas qui, mais mon boss! C'est quoi le problème dans la vie? Ah, mes enfants ne m'écoutent pas! Et le Bouddha, lui, va vraiment la cause. T'sais, moi, je pourrais dire, c'est quoi le problème dans la vie? Ben, c'est le diagnostic que j'ai. Là. C'est l'affaire que. C'est ça le problème, c'est la séropositivité. Puis il dit, non, Pascal, peut-être pas ça le problème, le véritable problème. Ou en tout cas, là où il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est ailleurs. C'est dans cette saisie que je vais essayer là, de décortiquer un peu, là, de nommer. Donc ça, c'est la deuxième noble vérité. Puis la troisième, bien, il peut y avoir la fin de la saisie. C'est possible, ça. Alors ça, c'est une maudite bonne nouvelle, quand même. Tu dis, il y a une cause à la souffrance, au stress, à la confusion, à la détresse. Puis c'est possible de retirer cette cause-là, de l'abandonner. Ça. Puis après ça, la quatrième vérité, c'est qu'il dit voici la prescription, voici le chemin. Puis là, c'est un petit peu plus substantiel. Il y a quelque chose dont peut-être plusieurs d'entre vous connaissez, puis là, après, il faut aller faire un petit peu de lecture, de recherche, il y a de très beaux écrits là-dessus, des enseignements. Ça s'appelle le sentier octuple. Hein? Le sentier, les. Donc, c'est une approche globale, je cherche le mot, là, holistique. Puis là, on dit, OK, pour qu'il y ait la fin de la saisie, il y a différentes choses qu'on peut faire. Alors, il y a un aspect de... Et c'est là où il donne des enseignements, par exemple, sur la générosité, sur la non-violence. Se protéger soi-même et les autres par nos paroles, nos actes. Et c'est là où il parle de ce qu'on appelle bhavana, des fois en pali, qui est le développement de l'esprit. Donc, les pratiques, la méditation, la pleine conscience. Puis donc, il y a tout un régime, on pourrait dire. La pleine conscience, c'est un des 8 éléments du sentier octuple, à 8 voies. Et donc, quand on parle de pleine conscience, en termes bouddhiques, ça s'inscrit dans quelque chose de plus large. Et donc, c'est ça. Nous, ce qu'on fait ici, c'est ça. On marche sur le sentier octuple. On s'est dit, tiens, on ne va pas blesser d'être vivant ici, pendant qu'on est ici. Donc là, on embarque direct sur le chemin. On dit, tiens, si on veut trouver la paix intérieure, la fin de la saisie, etc., ça va être bon de protéger les relations. Alors, faisons attention les uns aux autres, faisons attention à tous les êtres vivants autour. Et comme ça, il va y avoir moins de remords, par exemple, moins d'agitation mentale au moment de s'asseoir. Si j'ai passé du temps à blesser du monde, ça va être très dur de méditer. parce que vous êtes bien occupé à justifier. Ben ouais, ben elle méritait, écoudonc, hey. Puis là, ben pas de calme mental, parce qu'il faut que j'en rajoute, là. Faut que je couvre ça, là, mes actions, tu sais, mes paroles. Et donc, c'est pour ça que le Bouddha parle de ça, d'un comportement éthique, donc, de faire très attention à pas blesser, intentionnellement du moins, les êtres, soi-même, les autres, à travers, puis il devient très précis, là, à travers la sexualité, à travers les paroles, à travers les gestes, à travers le style de vie, par même de ça, là, à travers l'emploi du temps, la façon de consommer, etc., pour embarquer tout ça là-dedans. Puis après, ben, il y a tout l'aspect d'étudier son esprit, les comportements, les conditionnements, les choses apprises qu'il faut désapprendre. Là, tu sais. Les fausses perceptions, les projections, tout ça. Alors, tout ce travail-là de la méditation, là, de la pleine conscience. Donc, c'est ça qu'il dit en sortant de sa retraite. Il dit, c'est pas facile d'être un être humain. Le problème véritable, c'est un événement mental. C'est une petite méprise dans l'esprit qui crée beaucoup de troubles, beaucoup de, dans nos relations, dans notre fort intérieur. C'est possible de mettre fin à ça. Puis comment le faire? Ben, c'est ça. Voici comment procéder. Puis juste pour passer un petit peu de temps sur la saisie, en anglais, le mot qui est utilisé souvent, c'est « clinging ». Peut-être l'esprit qui s'accroche. Alors, il y a plusieurs façons de considérer ça, cette action mentale-là de l'esprit qui saisit quelque chose, la prise mentale. Ça peut se faire de différentes façons. On pourrait parler de vouloir être plus loin qu'on est. Ah, oh, si j'avais commencé la méditation avant, je serais plus loin aussi. Vouloir être, c'est une forme de saisie. Vouloir être vu comme ça par l'autre, vouloir être comme ça, vouloir être rendu là. C'est quelque chose qui est troublant pour l'être humain, qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Vouloir être quelqu'un d'autre, vouloir être ou vouloir ne pas être. Vouloir ne pas être là, être ailleurs, souvent ça vient ensemble. T'sais. Ou non, juste vouloir ne pas être. C'est problématique, c'est la deuxième flèche. T'sais. Vouloir être, vouloir ne pas être. Puis ça se décline de 100 000 façons, là. Vouloir être rendu à l'année prochaine, aux vacances, vouloir être. Donc ça vaut la peine qu'on s'y attarde, de voir comment je porte ça, ce vouloir être. Vouloir avoir, obtenir, c'est une forme de la saisie. Ça, c'est une liste classique de les trois formes de saisie. Vouloir être, ne pas être ou avoir. Puis là, après, ben c'est ça. Là ça, c'est juste des énoncés. Là, après, il faut aller voir, nous, dans notre vie, là, comment c'est en jeu. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ou est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça ne l'est pas pour moi en ce moment? Etc. Il y a une autre liste aussi des saisies que moi, j'aime bien. Elle me parle. Alors, on dit la saisie... arrive souvent autour de l'expérience de plaisir ou de déplaisir. Celle qui était, qui est ou qui pourrait être, hein, dans les trois temps. Alors, il peut y avoir une saisie. Jadis, à l'époque, MAGA, Make America Great Again. Comme si ça l'avait déjà été. Hein? Alors, il y a ça, là, on peut rester accroché. Ah. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé d'avoir pas reconnu là, profondément la nature changeante de quelque chose? que oui, ça a eu lieu, puis c'est parti, mais l'esprit, lui, il a saisi ça. Il veut retrouver ça. Il est accroché, il compare le présent avec ce passé-là qui était. Donc, il n'y a pas une compréhension profonde là, de la nature passagère des choses. L'esprit est resté accroché à quelque chose. En anglais, on parle des fois du « rope burn ». C'est-à-dire qu'imaginez-vous là, que si on est au 7e étage, puis qu'on essaie de descendre un piano avec une corde, puis que je suis tout seul à tenir la corde. Ça me glisse entre les mains, puis ça brûle les mains. Là. J'essaie de retenir quelque chose qui ne peut pas être retenu. Là. C'est ça la saisie comme ça. Là. Si on s'accroche à quelque chose qui s'en va. La jeunesse, la relation, la santé, etc. Très humain, là, toutes ces saisies-là, tellement naturelles, tellement humaines. Et on peut s'approcher de ça, voir ça en action. Ah tiens, voici une belle saisie, là, je le vois. Là. Ça peut être à propos du présent, on s'accroche à quelque chose qui est plaisant maintenant. Puis on n'arrive pas à bien le vivre parce qu'on... c'est à moi, touchez-moi. Ou ça peut être dans le futur. Hein? L'esprit n'a pas de problème avec ça, là, s'accrocher à quelque chose qui n'existe pas. C'est pas un grave problème. Là. Oh, ben, ça ne m'empêcherait pas, certain. C'est juste l'idée est assez pour que je m'accroche. Quand la retraite va être finie, on va être tellement bien. Ou que, quoi que ce soit d'autre. Hein. Et donc, il y a cette tendance-là, puis la pratique, c'est entre autres, c'est de voir ça en action. Sans jugement. Mais juste de voir, ah tiens, voilà une belle saisie. Là, je suis accroché à l'idée que je ne sais pas quoi. Là. Ça peut être très momentané, immédiat. Ça peut s'accrocher un peu à n'importe quoi. On le voit dans la... Quelqu'un le décrivait, là, mais moi je l'ai vécu tellement de fois aussi, puis ça ne m'étonnerait pas vous aussi, mais tu sais, comme on arrive, puis... Le plateau de nourriture est là, puis il y a une ou deux personnes. Puis là, tout à coup, on saisit le plateau de nourriture. Tu sais, quand je vais arriver au plateau de nourriture, tu sais, si je pourrais... Tu sais, il y a deux personnes en avant qui me séparent du plateau de nourriture. On peut saisir comme ça, là, tu sais. Puis on peut vivre toute une journée comme ça, quand la vaisselle va être faite, quand les enfants vont être couchés, quand je vais avoir fait ça, quand je vais avoir fait ce coup de fil-là, quand je... Puis, ça peut être comme ça du matin quand je vais être rendu à la maison. Puis toujours comme s'il y avait une carotte, là, tu sais. Toujours cette saisie de c'est l'autre moment qui compte, c'est l'autre moment, je veux-tu arriver à l'autre moment. Puis c'est bien de questionner ça pour voir. Puis ici, ben, on joue avec ça, on se dit hey, est-ce qu'on peut être ici, plutôt que pour que ce soit fait, pour qu'on soit rendu, est-ce qu'on peut être là sans la saisie, là, sans saisir le moment. Donner de la valeur au moment qui n'est pas encore arrivé. En tout cas, comme ça. Puis on peut saisir aussi, c'est vraiment étonnant, l'esprit humain, mais il peut y avoir une saisie sur un événement du passé qui était déplaisant. Tu pourrais dire, ben celui-là, laisse-le passer, on va le laisser passer, il est passé. Tu sais. Non. Non, non, non. Tu as dit ça en 85? Je ne le pardonnerai jamais. Je le tiens bien. Même qui racontait, j'entendais une prof il y a quelques années qui racontait. C'est délicat, mais je pense que c'est quand même ça porte quelque chose qui disait ma mère commence à perdre la mémoire, tu sais. Puis là, cette personne-là racontait, elle me disait. Là, elle me disait, parlait de. Je ne sais pas, sa propre sœur, avec qui il y avait une grosse chicane, puis à qui elle ne parlait pas. Puis elle disait, pourquoi donc je suis choqué après? Pourquoi? Elle disait, maman, je ne te dirai pas pourquoi. Ça ne me dérange pas, je ne pardonnerai jamais. Je ne me rappelle pas c'est quoi, mais tu peux être sûr que je ne pardonnerai pas. Et donc, puis c'est très naturel, évidemment, là, tu sais, que l'esprit reste accroché comme ça. Et... Il y a du possible, hein, on le sait. L'esprit peut être accroché à quelque chose de désagréable pendant que ça a lieu. Non seulement ça a lieu, mais en plus, l'esprit obsède, fait une fixation là-dessus. T'sais. C'est pas supposé d'être de même, c'est pas supposé d'être de même. T'sais, donc, ajoute, là, c'est ça l'affaire, là, la deuxième flèche, cette saisie. Ou à propos du passé. Je me souviens, j'ai fait une retraite une fois, puis après la retraite, il y allait avoir un événement après la retraite. C'était une retraite de 3 mois. Puis j'ai passé vraiment beaucoup d'heures dans la saisie, tu sais. Ah, je ne reviens pas quand je sors d'ici, c'est ça. C'est ça qui va se passer, tu sais. Puis ça m'a pris vraiment beaucoup d'heures avant de voir. Moi, c'est capoté. Puis quand la chose a eu lieu, c'était pas si pire. Mais la saisie, c'est ça que le Bouddha dit, c'est la saisie qui est le problème. Et donc, on a la chance, nous, de voir ça à travers la pleine conscience, en temps réel, en direct, pendant que ça a lieu, de prendre conscience, plutôt que d'être dans la saisie, sous l'emprise de la saisie, de la questionner, de dire « Ah tiens, voilà ». Puis la retraite, c'est un beau moment pour ça, à cause du silence, tout ça, il va y avoir toutes sortes de petites saisies, des plus grosses, puis on peut le voir, ça peut même peut-être certainement être une source de compassion, mais peut-être même être une source de joie. C'est, ah, voilà, j'en ai une belle, j'ai de saisir. Donc, c'est dans cette liste de 4-là, on peut saisir les choses autour du plaisir des plaisirs. Alors, l'esprit peut s'accrocher autour du plaisir des plaisirs. C'est pour ça que le Bouddha lui donne son propre chapitre là, d'investigation, d'exploration, le deuxième fondement, parce qu'il dit là, il y a vraiment une sorte de saisie très particulière autour de ce qui est plaisant, ou potentiellement plaisant, ou l'a été, ou désagréable, potentiellement désagréable, etc. L'esprit, là, il y a un lien là, vers la souffrance qui est immédiat. Là. Il y a une possibilité là, de relâchement. Autant qu'il y a une possibilité de saisie, aussi une possibilité de non-saisie. Donc ça, c'est une sorte d'exploration, d'entraînement, Il y a une autre chose, vous voyez, si vous remarquez ça, il y a une forme de saisie dans cette liste-là qui est la saisie autour je vais appeler ça les façons de faire. C'est pas comme ça qu'on fait ça. C'est pas de même qu'on fait ça. C'est comme s'il y avait toujours une seule façon. Oui, ben oui, il y a une seule façon de faire. Alors, les saisies autour des normes, des rites, façons de procéder, tu sais. Arriver, c'est comme, non, mais c'est pas comme ça, une retraite bouddhiste. Moi, j'en fais des retraites bouddhistes avec une autre gang, puis c'est pas comme ça. On parle. Oui. Puis ici, on parle pas. Puis, donc, tu sais, il peut y avoir ça, là. Puis ça, pour moi, c'est très applicable là, dans la vie quotidienne, de voir, là, ah oui, là, j'ai saisi. Je me souviens, à un moment donné, je jouais au théâtre, puis on était donc la petite troupe, la petite compagnie de la pièce. On partageait une loge ensemble. Puis moi, une autre personne, en avait des saisies opposées. On avait saisi bon, ça n'a pas été très loin, mais c'est devenu rigolo. Mais au début, il y avait une petite tension autour de ça. Puis c'était vraiment niaiseux, là. Vous allez voir, je vais vraiment vous décevoir, là. Si c'était pas fait encore, là, j'étais pas rendu au plus bas. Là, ça va être... C'est vraiment la chute. Mais... moi, quand je sortais des toilettes, je la laissais un peu ouverte pour que les gens sachent qu'il n'y a personne. Parce que c'est ça qu'on faisait chez nous dans ma famille. Puis dans la famille de cette autre personne-là, la porte des toilettes est fermée. Fait que là, on avait saisi, puis on avait toutes les deux raisons sur la... Tu sais, on avait... Puis je voulais montrer. Fait que, tu sais, quand je voyais qu'il n'y a personne, j'ouvrais la porte. Je fermais la porte. C'était aussi nono que ça, mais... on peut créer beaucoup de troubles autour de nous en saisissant quelque chose comme ça. Bon, vous, c'est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus élevé, tout ça. Vous rabaisseriez jamais une affaire de même. Mais j'utilise quelque chose ici là, pour vous faire sentir bien à propos de vous-même. Que vous, non, quand même. Mais il y a ça. Puis dans la retraite, on peut le voir de toutes sortes de façons. Avec le vestibule, c'est possible qu'il y ait eu ça. Il peut y avoir ça avec la salle à manger. Quand on partage une chambre en retraite, c'est comme ça. Dans les retraites, il y a souvent il n'y a pas eu ça cette fois-ci, parce qu'il fait froid, je pense, mais souvent, il y a la guerre des fenêtres. Alors quelqu'un trouve qu'il manque d'air, fait qu'ouvre la fenêtre. Quelqu'un a froid, ferme la fenêtre. Puis là, tu sais, ouvre, ferme. Puis il y a toujours un moment où il faut parler de la saisie autour des fenêtres. Puis ça pourrait être de même avec le thermostat, tu sais. Moi, je monte un matin, quelqu'un dit, ah, fais donc bien chaud ici, là, descends. Mais ça, il y a plein d'endroits dans nos vies, ça, dans nos relations. Tu sais, puis moi, j'ai une... Il y a une pratique autour de ça. Là. Des fois, il faut que je me souvienne de ça. T'sais. Je sais, qu'est-ce qui compte, Pascal? Est-ce que c'est la relation avec mon amoureux ou le fait que les oignons devraient aller en premier? Il faut faire des choix, là. Je n'aurai pas toutes. T'sais. Puis là, il faut que je vois, OK, bon, je peux peut-être laisser aller la relation. Mais les oignons doivent aller en premier, c'est sûr. Donc ça, c'est une forme de saisie. Puis c'est ça, il peut y avoir, hein, du jeu, il peut y avoir un côté ludique où on voit, là. Je me souviens quand j'étais petit avec mes parents, le 11 août, on partait avec le char un peu plus loin où il n'y avait pas de lumière, puis là, on mettait une grosse couverte sur le hood du char, puis on se couchait sur le hood avec la tête contre la vitre du char. Puis on regardait les étoiles filantes. Puis on disait, « Ah, j'en ai une! Ah, j'en ai une! Ah, moi aussi, je l'ai vue! Hein? » Puis, tu sais, on attrapait des étoiles filantes un peu. Puis je trouve que dans la pratique, il y a quelque chose qui s'apparente à ça. Quand tout à coup, on voit une belle saisie. « Ah, j'en ai une! Ah, là, j'en ai une! Oh, ouais, là, j'ai une saisie! J'ai une belle saisie! » Là, je suis accroché à quelque chose. J'ai vu quelque chose, je le veux. Je le veux. OK. Je projette là-dessus la satisfaction, puis là, je le veux. Fait que là, mon esprit est devenu comme ça, que je continue à parler avec la personne. Je suis gentil, tout ça, mais j'ai mon objectif. Il faut que je mette la main sur cette affaire-là, ou que j'arrive à ça. Et donc, on peut voir ça, puis voir qu'est-ce qu'il y a autre chose de possible. Une autre forme de saisie, c'est un peu... pour continuer avec les normes, pour moi, ce que je vois en ce moment, par exemple, c'est autour du genre. Il y a une saisie incroyable, je veux dire, c'est dramatique. Là. Combien de personnes trans sont assassinées dans une année parce qu'ils ont décidé d'exprimer, de porter un tel vêtement, puis que non, on ne va pas laisser passer ça, tu vas payer pour ça. Ça va loin, la saisie. Il y a beaucoup de charges là, autour des choses. Hein. Ben, après ça, on va vers la troisième forme de saisie dans cette liste-là, qui est les points de vue, les opinions. On est un peu dans les mêmes eaux, mais ça a son propre... donc, les visions... les façons de voir, la compréhension du monde. Pendant la pandémie, c'était vraiment intéressant hein, de voir comment, le masque, par exemple, comment il était perçu par certaines personnes, puis comment il était perçu par d'autres. Puis moi, j'arrivais en retraite. C'était très intéressant parce que dans le milieu spirituel, tu avais toutes les genres, tu sais. Fait que là, il y en a qui pensent que le masque, ça vaut rien. Il y en a qui pensent que le masque, ça va être une protection. Puis là, comment coexister, devenir une communauté, malgré des points de vue complètement, diamétralement opposés. Le vaccin, le masque, la pandémie, existe, n'existe pas, est aidant, n'est pas aidant. Puis comment coexister quand il y a une partie du groupe qui pense que c'est une affaire complètement ridicule du gouvernement. Puis comment une autre partie du groupe pense que c'est quand même bien de ceci ou cela. Puis comment il y a possibilité de pratiquer en... Ah ben non! Ah ben non, là, par exemple. Mais non, mais c'était intéressant de voir, de dire, tiens, on a des points de vue peut-être diamétralement opposés. Puis est-ce qu'on peut vivre ensemble? Le silence va aider. Le silence devient très précieux. Puis, mais pas juste ça, c'est qu'il fallait qu'on s'entende sur quelque chose. Tu sais. Qu'on disait, ben, là, il va. Mais de toute façon, ça allait pas rejoindre tout le monde, tu sais, quel que soit le groupe auquel on appartient. On disait, bon, ici, puis moi, je passe d'un centre à l'autre. Là, je dois visiter 15 à 20 centres par année. Tu sais. Fait que là, j'arrivais ici, je sais pas, ici en Suisse, ici en France, ici aux États-Unis. Ici, là. Puis là, c'était ici, c'est comme deux masques, une visière. L'autre, c'est non, on n'a pas pensé à ça. Puis l'autre d'après, c'était jusqu'à on marche, pas quand on est assis. L'autre, c'était jusqu'à on est assis, pas quand on marche. puis là, ben, à chaque fois, moi, j'avais le mandat un peu de rallier tout le monde, de dire, bon, c'est pas... Toi, tu trouves que c'est pas assez. Toi, tu trouves que c'est beaucoup trop. Puis est-ce qu'on peut s'entendre sur quelque chose qui est bancal pour tout le monde, mais qui est... C'est l'entente qu'on peut peut-être avoir, même si tu préférais que, ou que c'est ridicule, ou que, etc. Est-ce qu'on peut travailler avec ça, tu sais? Puis à chaque fois, ça marchait. Mais donc, puis le Bouddha, donc la saisie autour de du point de vue, de l'opinion. Avez-vous déjà souffert de ça, vous aussi? Pourrait être trouvé noyé dans son opinion. La saisie d'une opinion, c'est pas... ou d'un point de vue. Puis il parle particulièrement, le Bouddha, de saisies qui sont... Là, c'est au cœur de ce qu'on a fait ici cette semaine. Là-dedans, dans le ouais, wise view, la compréhension, la perception des choses. Et le Bouddha parle de ça et dit de saisir un point de vue qui est erroné, c'est encore plus douloureux. Saisir un point de vue, que tu aies raison ou pas, ça va faire chier le peuple. C'est sûr que tu aies raison ou pas, si elle a saisi, ça va être douloureux, donc il parle de ça, que ça ne vaut pas la peine de saisir même quelque chose qui est juste. Alors là, il y a une belle recherche, hein. Puis on le voit bien, parce que lui, il y avait des conversations, puis les gens arrivaient, puis c'est pas vrai pantoute ce que vous dites, puis c'est pas ça, puis etc. Puis il disait, lutte, ça vaut pas la peine de se braquer pour quelque chose, tu sais. Ça vaut pas la peine de... Bon, il y a plein de nuances à apporter là-dedans, mais ce que je veux dire qui me paraît important de nommer ici, c'est qu'il y a des saisies de points de vue, de compréhension du monde qui sont erronées et que la pleine conscience aide à défaire, déloger. Vous allez reconnaître des choses, là. C'est ce qu'on a fait ici cette semaine. Alors, il dit projeter sur quelque chose qui est impermanent, la permanence, c'est une saisie, c'est une forme de saisie, de saisir quelque chose comme permanent, puis qui ne l'est pas, ça va faire très mal. D'où la pratique qu'on fait ici cette semaine, de noter le fait que les choses apparaissent et disparaissent constamment pour se défaire de cette saisie, cette mauvaise compréhension, saisie dans le sens où on a adhéré à ça. On a saisi ça comme étant vrai, que ceci est solide, c'est solide. Puis ici, on voit, on veut se mettre, découvrir constamment que les choses sont dynamiques, changeantes par nature. Une autre erreur, c'est saisir, donc projeter sur quelque chose, percevoir dans quelque chose, puis y croire. Ça, c'est une forme de saisie, que quelque chose va être satisfaisant, peut complètement faire la job. Et là-dedans, il va y avoir du trouble, parce qu'on va être déçu, etc., parce que l'affaire peut pas, c'est pas dans sa nature de satisfaire complètement. Vous pourrez dire, ah, quand je vais avoir une ou un amoureuse. Ça n'a pas tout réglé. Ah, moi, c'est pas ça, c'est un enfant. Ça vient avec quelques complications. Je ne dis pas que ce n'est pas incroyablement profondément beau, etc., mais quand même, parce que des fois, les gens le décrivent. Quelques personnes m'ont dit... c'est arrivé peut-être deux ou trois fois que quelqu'un me décrive, puis je me dis, bon, c'est très similaire, là. Que, genre, au moment de la naissance, tout à coup, là, j'ai une peur qui semblerait va jamais me quitter. La peur de qu'est-ce qui va arriver à cet être-là. Je sais pas, je suis pas un parent, mais j'ai entendu ça être décrit, tu sais. Que tout à coup, il y a, wow, fragile, tu sais. Et donc, on peut projeter sur les choses la satisfaction. Puis la pratique spirituelle, la pratique de la pleine conscience, c'est pour voir la nature changeante, instable, des choses. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'engager dans la vie, pas avoir d'enfants, pas avoir de relations, pas partir de projet, mais on va le faire peut-être avec une connaissance plus profonde de « oui, j'embarque là-dedans, c'est une belle vision, puis ça va probablement pas être facile de... Il va y avoir des complications. « Hey, on part un projet ensemble, je t'adore, ça va être facile, ça va être beau, ça va bien marcher. » Ben, OK, là, ah, on se comprend plus. Ah, ça, c'est difficile à obtenir, etc. » Alors, d'être conscient, consciente, nous permet de voir peut-être là où on projette, ou peut-être que la nature instable des choses sont révélées. Puis l'autre projection... l'autre saisie. Peut-être c'est un peu le cœur du message aujourd'hui, de ce dont je voulais parler, entre autres les quatre nobles vérités, les nommer. Puis cette forme très particulière de saisie, qui est la saisie de... C'est la quatrième forme de saisie dans cette liste-là, c'est l'identification, l'appropriation. Alors comment... Une façon de saisir quelque chose, c'est moi, à moi, mien. Je veux que ce soit moi, ou c'est à moi. Rien de plus naturel que ça. On fait ça. Hein? C'est moi, c'est à moi. Et c'est comme si Bouddha disait, fais, oups, attention. C'est délicat. C'est un geste de l'esprit, c'est un mouvement de l'esprit qui mérite qu'on s'y attarde. Là. Si je m'approprie quelque chose qui, en bout de ligne, ne peut pas vraiment être à moi, c'est pas possible. D'une façon conventionnelle, on peut dire, oui, c'est ton bicycle. Mais si quelqu'un le prend, c'est la preuve que ce n'était pas à moi. Là. De façon absolue, me suivez-vous? Moi, je peux penser, par exemple, que la santé, c'est moi, c'est à moi. Puis là, d'un coup, oups, diagnostic. Je me rends compte que ce n'était pas à moi de cette façon-là. Il y avait la santé qui était conditionnelle, mais ça ne m'appartient pas exactement ça. L'autre, évidemment, ne m'appartient pas. Ça va être révélé à un moment donné si je ne suis pas conscient de ça. Hein? Les objets ne m'appartiennent pas, puis même les choses à l'intérieur ne m'appartiennent pas. Ma mémoire, c'est quelque chose qui est conditionnel, qui nécessite quelques conditions. Si une des conditions change, c'est pas, ça va être révélé que c'était pas exactement à moi. Mon opinion, mon... Puis, pour nous, il y a toujours cette identification-là comme un peu constante. De ce que je comprends de la psychologie bouddhiste, ça peut être très intéressant pour quelques personnes ici, je pense. Il y a pas d'ego. Ce qui se passe, c'est des petits gestes, des petits moments de saisie. On s'accroche à quelque chose, on s'identifie à quelque chose. C'est des mouvements momentanés, mais c'est assez constant, comme ça. C'est comme un singe qui s'accroche à quelque chose. C'est ma place dans la salle de méditation. Fait que là, si j'arrive et quelqu'un est assis à ma place, je vais m'être identifié, approprié cette place-là. Puis là, quelqu'un... Puis après, je vais m'asseoir, puis ça va être ma respiration. Mais à un moment donné, la respiration, je vais m'en foutre, là, c'est pas... Je ne serai pas identifié à ma respiration de façon solide tout le temps. Ça va être juste à un moment donné, je vais trouver qu'elle est un peu de même. Puis là, ça va être ma respiration. Mais après, ça va être mon opinion. Mais suivez-vous un peu? C'est comme on s'accroche. Puis on lâche l'accroche constamment, puis on la repogne. Mais on ne remarque pas. Dans une attention superficielle, on va penser, c'est tout à moi, c'est moi. Mais c'est pas comme si, tu sais, tout à coup, mon orteil, c'est quand on le cogne. Deux minutes avant... Mon orteil, c'est pas comme ça qu'on perçoit le monde. Là, mais quand on le cogne, par exemple, c'est mon orteil. Ben, je m'identifie, je me l'approprie. donc, c'est intéressant de voir ça, cette façon-là de s'approprier les choses. Dans la pratique de la méditation, c'est une façon de, très doucement, de relâcher de cette forme de saisie qu'est l'identification, l'appropriation. comment ça peut se passer, par exemple, c'est qu'au début, je pense que tout ça, c'est moi. Fait que là, c'est ma respiration, mon esprit est agité, c'est ma pratique, c'est moi qui commence ma pratique, etc., comme ça. Puis là, tranquillement, tout à coup, je sais pas, ça peut être moins ma respiration, mais plus la respiration. C'est très... On pourrait même ne pas le remarquer exactement, le changement de perception. Tout à coup, c'est la respiration, les mains. Il y a moins de... Tout à coup, même, ça aide là, de s'approcher des phénomènes, parce que tout à coup, on découvre un champ de pulsation. Puis là, l'idée de ma main devient un peu étrange, parce que, en fait, c'est juste un champ momentané de sensation. Ça ne viendrait même pas à l'esprit de s'approprier cette expérience de petit champ de picotement, de pulsation, de chaleur. Le rapport change tranquillement. Puis doucement, ça va se propager, on pourrait presque dire, mais je vais découvrir que, ah tiens, avant, je prenais très personnel les émotions, puis là, en tout cas, une certaine émotion, je remarque qu'elle est là. C'est pas tellement moi qui est ça, mais ah, il y a un peu d'agitation. Voyez-vous un peu? C'est moins saisi comme étant moi à moi, mais c'est reconnu comme un événement qui apparaît. Hein? De la même façon que quand il y a un son, on n'est pas comme « Ah, c'est mon son! Hein? » Il y a un son, il apparaît, puis de là, après ça, il y a une sensation. Elle apparaît aussi. On ne la saisit pas de cette façon-là non plus. Donc, cette sensation-là qui passe, l'émotion. À un moment donné, on va découvrir ça avec les pensées. Au début, on va penser « C'est moi, c'est mes pensées, de quoi tu parles? » Encore une fois, hérésie, comment ça peut pas être mes pensées? Puis à un moment donné, on voit que, ah, une sorte de message qui a été reçu de quelque part, la famille, la culture, puis que là, ça pense, c'est pas exactement moi, mais le message a été bien enfoncé, de telle sorte que telle pensée surgit. Puis ça, c'est pas moi pantoute, mais c'est là. Puis on peut découvrir, ah oui, ou à un moment donné, ben, ça pense. Un genre de moi à quelque part qui demeure, puis qui subit les pensées. Est-ce que je les... C'est ça, là, dans cette investigation-là des pensées, est-ce que je les émets ou je les reçois? Ou les deux à la fois? Ou quand, quoi? Ça peut changer d'un moment à l'autre. Le je, Pascal, voudrait que mes pensées s'arrêtent, mais elles continuent. Puis à un moment donné, ben, je pense que... Donc, on peut voir là, qu'il y a des nuances là-dedans, que certaines pensées peuvent m'apparaître comme étant miennes, puis d'autres comme étant apparaissant. C'est la meilleure façon que j'ai de parler de ça. Là. Puis donc, ah, tout à coup, on voit que c'est pas exactement ça. Puis tranquillement, ça va être comme ça. Puis le Bouddha a toutes sortes de techniques pour défaire cette saisie de « je », d'identification. Avec la matérialité du corps, ben, il parle des quatre éléments. J'en ai parlé un petit peu. Puis on découvre que ça, c'est un jeu d'eau, d'air, de feu, de terre. À travers cette lunette-là, on relâche un peu de la saisie de moi. Il parle de ça, le Bouddha, il dit « Ah, les êtres... comment il dit? Les êtres sages? » Les êtres... Il commence avec, je crois, avec les êtres... moins sages. Les êtres moins sages ressentent l'élément de la terre. Je pense qu'il commence avec les sages. Il dit les êtres sages reconnaissent l'élément de la terre. Voilà. Ça presse sur les fesses. C'est la terre qui presse contre la terre. Les êtres un peu moins sages reconnaissent l'élément de la terre, ils reconnaissent que ça presse, comme ça, mais ils vont un petit peu plus loin. Ils s'approprient. Ça, c'est à moi, c'est moi. Avec ça, pas loin derrière, la peur. Isolé, à moi, il faut que je protège, etc. Donc, il y a un peu de pratique là, pour relâcher un peu de ça, de reconnaître l'élément de la terre, l'élément de... Il y a toutes sortes de façons, le Bouddha, pour déconstruire un peu l'expérience, pour relâcher de cette saisie identification. Et tout à l'heure, cet après-midi, j'ai amené cette aberration, ou qui semble l'être, que la conscience est un phénomène naturel. C'est le dernier, en anglais, on dit « hideout », c'est le dernier endroit là, de saisie. Là. C'est comme « OK, les sensations, d'accord, ils viennent, ils vont ». C'est pas à moi, d'accord. OK, les émotions vont et viennent. OK, je te l'accorde, c'est pas exactement à moi. OK, les pensées vont et viennent. OK, d'accord. Mais la conscience, tu touches pas à ça. Ça, c'est moi. Et le Bouddha va questionner ça dans sa pratique. Les moines, les moniales, par exemple, entrent dans ce laboratoire-là, peut-être pour plusieurs années ou une vie, où on va tout faire pour stabiliser l'esprit, pour qu'il y ait le moins de choses, de tâches, moins d'affaires à faire possible, pour qu'il y ait le plus de calme possible. On essaie de, le Bouddha a installé ça, créé un espace où on peut faire cette recherche qui est extrêmement subtile, qui nécessite là, des conditions très particulières pour pouvoir aller voir ça. Sinon, quand tu n'as pas les bons instruments, puis la situation, tu ne pourras pas faire cette recherche-là. Mais c'est possible de créer un espace de pratique où on va pouvoir aller voir véritablement qui est derrière ça. Là. Est-ce que la conscience, ça appartient vraiment à quelqu'un? Certaines personnes semblent avoir découvert que non, que c'est un élément très naturel, puis qu'il y a cette méprise, cette identification, cette appropriation d'un phénomène qui est très naturel, la conscience, qui d'ailleurs va et vient, hein, tout à coup elle disparaît, apparaît. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas localisé, hein, de la même façon que certains événements n'ont pas lieu partout, ils ont lieu juste là, un son là, qu'il peut y avoir de la conscience juste quelque part, mais est-ce que ça appartient vraiment complètement à quelqu'un qui serait intrinsèque, caché là, derrière les yeux, fameux observateur, témoin? Peut-être qu'on pourrait découvrir que non. Et le Bouddha semble dire que pour qu'il y ait libération de la méprise, de l'ignorance, de l'avidité, de la peur, il faut clarifier ça à ce point-là. Il faut aller voir est-ce que la conscience, est-ce qu'il y a une petite méprise en pensant que c'est moi qui est conscient? Est-ce que ce n'est pas un phénomène naturel qui est de la conscience? Moi, je trouve que c'est très intéressant, ça. Peut-être que c'est pas accessible immédiatement, mais c'est bien de savoir, tu sais, dans certains domaines, on fait de la recherche, on fait des découvertes. Dans ce domaine-là, il y a eu de la recherche. En tout cas, la science essaye aussi de trouver ça, puis semble pas pouvoir localiser ça. Et c'est très drôle, quand on parle de ça, ça a l'air complètement étrange, en tout cas pour plusieurs personnes. On dit que c'est contre-intuitif, ces enseignements-là sur le non-mien, non-soi. Et j'avais entendu une fois Mingyur Rinpoche, qui est un enseignant, puis lui, il disait, quand je parle de ça à travers le bouddhisme, le monde freak. Ah, de quoi? C'est non bien capoté, je comprends rien, confusion, angoisse, on s'arrache les cheveux de sa tête, on se bat la poitrine, etc. Puis il dit, mais quand j'en parle d'un point de vue neurologique, là, tout le monde est correct. Là, il n'y a aucun problème. Ah, c'est le fight, flight, freeze qui embarque, c'est pas toi, ça part tout seul. Ah, OK. Ou c'est ton amygdale, c'est ton néocortex frontal. Droit. D'ailleurs, c'est tout le temps le droit. Hein? J'ai jamais entendu parler du gauche. C'est toujours le néo-frontal, cortex frontal droit. En tout cas, moi, je suis jamais tombé sur le gauche. Mes lectures. Je le cherche encore. Mais quand on en parle comme ça, ça va. Les gens sont très à l'aise. C'est cette partie-là de ton cerveau qui embarque. Puis je parlais avec une connaissance très sympathique qui est pédopsychiatre. Puis elle me disait, ah oui, des fois les enfants comprennent, dans un sens, le comprennent bien. Ils vont dire, je l'ai dit à ma mère, je l'ai dit à ma maman, c'est pas moi, c'est mon cerveau. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire. Là. C'est peut-être pas si mystérieux que ça. Peut-être que c'est peut-être pas si far out que ça, ésotérique que ça. Peut-être que c'est abordable aussi, là, qu'on peut se rendre compte que c'est ça. Et donc, la façon de s'approcher de ça, c'est en s'intéressant beaucoup à la notion de cause à effet. Hein? Comment les choses naissent de quelque chose d'autre que le goût de zipper vient peut-être du fait que c'est froid. Tu sais. Puis là, on se met, plus on est attentif, plus on voit le cause à effet. Le cause à effet, puis de moins en moins, de, de, très subtilement, on questionne cette notion-là de « je » qui décide de tout, etc. T'sais. Comme par exemple, c'est quand même drôle que... On peut dire, ben, c'est moi là, qui décide à la fin de la méditation d'aller marcher, là, quand même, tu vas pas m'enlever ça, c'est moi qui décide ça. Oui, mais c'est quand même intéressant que tu marches comme un zombie alors que tu l'as jamais fait. C'est, d'où ça vient, ça? Ça vient-tu du fait que ça a été proposé comme ayant de la valeur? Me suivez-vous un peu? C'est moi qui décide, mais quand même, en dehors de ce contexte-là, je le ferai peut-être pas, tu sais. Par exemple, des fois, on fait la marche méditative en dedans, mais ça peut être à l'extérieur, mais je l'ai vu tellement souvent en dedans, c'est très drôle. Je fais la marche comme ça, aller-retour, comme ça, on peut être 4, 5 comme ça, 8, comme ça, on marche comme ça. Puis souvent, l'intention de m'arrêter apparaît juste avant de foncer dans le mur. Voyez-vous ce que je veux dire? Que je peux dire, c'est moi qui décide d'arrêter, mais l'idée d'arrêter apparaît quand les circonstances sont là, là, tu sais. Comme j'avais remarqué aussi que si quelques conditions sont réunies, si par exemple il y a une fourchette avec de la nourriture dessus, l'envie de l'amener à la bouche vient. Même qu'il y a la faim ou pas, souvent c'est pas très grave. Surtout s'il y a l'ennui. S'il y a l'ennui, une fourchette, puis de la nourriture, l'intention d'amener la fourchette à la bouche naît. Puis ça va être comme ça, hein. Des fois, on va dire, le soir, on est couché, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Si on le voit du point de vue d'un jeu, c'est weird, tu sais. Pourquoi j'ai... Ben, c'est pas toi, mon beau, ma belle. C'est pas toi, c'est ce qui était là, c'était le désir d'être vu, la peur d'avoir l'air de ça. C'est ça qui a parlé. C'est pas si personnel que ça, c'est pas tellement jeu. Ça n'empêche pas de prendre la responsabilité des actions. Mais on peut voir qu'est-ce qui parle, qu'est-ce qui agit. C'est pas je qui parle, qui agit. C'est des états mentaux qui sont là. La pleine conscience, c'est pour qu'il y ait conscience de quel état mental est au volant. Essayer de mettre le plus possible la compassion, la bienveillance, la sagesse, le discernement, plutôt que la haine, l'avidité, etc. C'est tous ces facteurs-là qui vont agir, qui vont parler. Alors, si c'est la confusion qui est là, puis c'est elle qui mène la réflexion, ben ça va mal aller. Mais si on amène une part de calme, une part de bienveillance, puis là, c'est ça qui mène la réflexion, ben la réflexion va aller dans une autre direction. Là. C'est drôle, hein, comme présentation de la réalité. Alors, genre, ben non, mais c'est moi. Ben, peut-être pas tant que ça. Et donc, le processus de la méditation, en fait, c'est une compréhension profonde de la nature conditionnelle des choses. Puis, quand on comprend que quand il y a la sagesse, les gestes, les paroles, les pensées sont aidantes, ça a du sens tout à coup d'essayer de mettre la sagesse au volant. Comment mettre la sagesse au volant? Ralentir, prêter attention. La pleine conscience devient la porte. Le Bouddha, tout son chemin, là, dans sa quatrième noble vérité, il peut y avoir la fin de la saisie, c'est pas juste une volonté, un désir. OK, là, c'est la fin de la saisie. Mais la fin de la saisie, c'est quelque chose qui est conditionnel. Il faut qu'il y ait des éléments en place pour qu'il y ait la fin de la saisie. Voici les éléments. Comportement éthique, de la générosité, de l'attention, des choses comme ça. Parle de la voix d'un autre. La voix sage d'un autre, des fois c'est un livre, des fois c'est un ami, des fois c'est... qui peut induire de la sagesse, de l'attention peut induire de la sagesse. Et quand, tout à coup, on embarque là-dedans, ben ça, les causes et conditions évoluent d'elles-mêmes. Il y a plus de chances qu'il y ait la sagesse que quand il y a la prise de drogue, par exemple. Faire des mauvais choix, c'est le... Bon, ben, prenons une bouteille de Jack Daniels, chacun, puis voyons voir qu'est-ce que ça va causer. Tu vas voir que ça va prendre le bord, le silence, la sexualité, la considération pour l'autre, tout ça, ça va devenir tout croche. Là, tu sais. Il n'y a rien de personnel là-dedans, c'est du cause à effet. Donc, injecte ce genre de matière-là, juste assez, puis ça va mal tourner. J'essaie de rendre ça le plus palpable possible. C'est des choses, c'est une vie de recherche et d'exploration. Mais en tout cas, il y a cette dernière forme de saisie-là. Ça vaut la peine d'en entendre parler un peu. Je pense qu'on le sait. On le sait que quand on prend les affaires personnelles, tu sais, si on regarde pourquoi la personne n'est pas arrivée, elle n'a même plus. Puis là, tu découvres que non, l'autobus est en retard. C'est pas toi, c'est son autobus qui est en retard. Prends-le pas personnel. Son autobus qui est en retard, c'est pas à propos de toi. C'est aidant. Écoute, tu découvres ça. Ah, c'était pas à propos de moi. Mais là, c'est pas la vie qui s'acharne sur toi, c'est il y a la maladie. C'est une des choses qui arrivent dans la vie. C'est pas personnel dans ce sens-là. C'est pas contre toi que. C'est pas ça. Il y a la séropositivité. Si les conditions sont réunies, il va y avoir la séropositivité. Il faut que tu sois dans une certaine époque, peut-être. Il fallait que tu sois là, mettons, plus. Il y avait plus de chances dans les années, fin des années 80, début des années 90, qu'il y ait ça. S'il y a l'homosexualité, il y a plus de chances. Si tu es dans un monde hétéronormé qui t'offre aucun soutien dans ta découverte de sexualité, ben, puis que t'es pogné tout seul à faire ta recherche, ben c'est sûr que si ça prend des conditions, si les conditions sont là, ben il va y avoir là, c'est pas si personnel que ça. Après, ben il faut s'en occuper. Bon, je suis rendu à quelle heure? Oh my God! Échec. Lamentable. Prenons un moment pour laisser les mots se dissiper. Merci encore de votre considération. Juste un petit moment. Alors, c'est pas facile d'être un être humain. Mais le véritable problème, c'est la saisie. Il peut y avoir la fin de la saisie. Et un chemin qui mène vers la fin de la saisie. Qui a peut-être à son centre l'attention, la pleine conscience. Tous les êtres puissent trouver leur chemin et s'accompagner sur le chemin jusqu'à la fin de la saisie. Bon appétit.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.